Salut à tous et à toutes et bienvenue à Point de vue. Aujourd'hui à l'émission, un nouveau parti politique tente de se faire une place au pays en vue des élections du 28 avril prochain. Le Parti de l'avenir canadien compte être présent dans une centaine de circonscriptions du pays.
On a besoin de regarder le contexte actuel. Un grand pouvoir au nord, un grand pouvoir au sud. Si on veut protéger notre indépendance, Canada a besoin de devenir un grand pouvoir militaire et économique.
Branle-bas de combat au Manitoba où Ginette Lavaque, candidate libérale dans Saint-Boniface-Saint-Vital, tente de se faire élire.
C'est excitant! Tout le monde est content. On reçoit des gens sérieux à notre bureau de campagne ici. Les gens sont prêts à venir faire du bénévolat. J'ai fait du porte-à-porte ce matin, mais on va à la rencontre des gens sur le terrain, puis c'est excitant.
Le Bureau d'aide juridique en immigration de Québec face à un cul-de-sac, 200 immigrants vulnérables exposés.
Au moment où il y a eu l'annonce de fermeture du bureau, il y avait plus de 45 dossiers qui étaient en attente d'être rencontrés. Il y avait plus de 6 semaines d'attente pour avoir même un rendez-vous d'admissibilité au Bureau d'aide juridique en immigration. Donc, c'est vraiment pas parce que les besoins sont absents sur le territoire.
Et c'est le temps de cultiver ses futurs caries autour des produits de l'érable. On ira faire un tour à Ottawa pour vous parler du 40e Festival des sucres.
Quand on bouille puis les gens viennent manger à la cabane à sucre, c'est assez féerique. Là, ils peuvent nous voir travailler. Ouais.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Bonjour, merci d'être là cette semaine encore. Ici Boris Chassaigne. Je serai avec vous pour les 30 prochaines minutes. Comme vous vous en doutez, la campagne électorale est maintenant bien lancée. Nos journalistes sont là pour vous en parler, vous présenter les enjeux qui touchent leur communauté et les partis qui s'y impliquent. Dans cette première partie de l'émission, on va vous présenter une candidate et un chef de parti qui militent chacun à leur bout du pays. On se rend d'abord dans l'Ouest où Ginette Lavaque, candidate libérale dans Saint-Boniface-Saint-Vital, est en train de mobiliser son équipe, son quartier général situé sur Taché, bourdonne d'activités avec des bénévoles motivés, un programme axé sur la continuité du travail réalisé par son prédécesseur, Dan Vandal. Sur le terrain, Mme Lavaque multiplie les rencontres avec les citoyens pour leur parler de l'importance des services en français et aussi d'investissements locaux. L'énergie au sein de son équipe de campagne est palpable, les appels aux électeurs se multiplient, le porte-à-porte s'intensifie, les nouveaux bénévoles affluent chaque jour. C'est une campagne de proximité, affirme Mme Lavaque. Mme Lavaque, pour qui la clé du succès repose sur le contact direct avec les citoyens. Je veux être une voix forte pour eux à Ottawa, assure-t-elle, elle qui espère remporter une victoire électorale décisive. Sur le terrain avec elle, notre journaliste Gaëlle Mpoyou à Winnipeg, au Manitoba.
Dès l'entrée dans le bureau de campagne, l'énergie est palpable. Les téléphones sonnent, les discussions sont animées et le nouveau bénévole afflue chaque jour. Nous raconte ici Ginette Lavaque.
C'est excitant! Tout le monde est content. On reçoit des gens sérieux à notre bureau de campagne ici. Les gens sont prêts à venir faire du bénévolat. J'ai fait du porte-à-porte ce matin, puis on a rencontré des gens très, très aimables. Il y en a d'autres moins. Ils veulent pas ouvrir leur porte, mais c'est ça les élections. Mais on va à la rencontre des gens sur le terrain, puis c'est excitant. C'est vrai que c'est très, très court, c'est rapide, mais les gens sont mobilisés, là. Les gens sont excités. Puis je pense que le fait que c'est plus court, ça va dire qu'on va juste travailler double les efforts puis qu'on va aboutir plus rapidement où est-ce qu'on veut aller.
Sa gérante des campagnes, Laura Lamont, nous explique pourquoi elle a accepté d'accompagner Ginette Lavaque.
Son engagement avec les communautés, ça c'est vraiment important pour moi, de voir quelqu'un qui prend le temps de parler aux gens, de travailler avec des communautés différentes. C'est ça aussi que Dan a fait, mais je crois que c'est vraiment que pour Ginette, c'est quelqu'un qui, les gens de Saint-Boniface-Saint-Vital, c'est leur priorité, sont ses priorités.
Dans l'arrière-salle, les bénévoles s'activent. Certains passent des appels, d'autres préparent du matériel de campagne. Pour Dan Dunaoui, militant de longue date du Parti libéral, l'engagement était une évidence.
J'ai 72 ans, je suis un partisan de longue date du Parti libéral fédéral. J'ai senti que cette élection était bien trop importante pour ne pas m'impliquer. Pour ne pas mettre les pieds sur le terrain, m'engager et prendre mes responsabilités en cette période cruciale pour notre pays. Oh oui, je la connais. Nous avons déjà collaboré par le passé dans le milieu des arts et de la culture. Elle est extrêmement compétente, incroyablement brillante et créative, et je sais qu'elle est farouchement loyale envers sa circonscription. Je pense que Ginette est de loin la représentante la plus compétente que nous puissions envoyer à Ottawa en ce moment de notre histoire.
Pour bailler la politique, l'engagement est avant tout
linguistique seulement, principalement. Pour avoir un député francophone, pour représenter une circonscription qui a beaucoup de francophones et beaucoup d'enjeux francophones dans cette circonscription et dans cette ville.
Originaire du Ghana et résident à Saint-Boniface depuis 9 ans, Djamila Mahama met l'accent sur l'importance de l'information.
Oui, vraiment, je suis un membre libéral et cette fois, j'ai pensé qu'il fallait que je me lève et que j'aide. Je crois que tous les libéraux devraient se lever et aider leur circonscription. Mais si nous restons assis sans rien dire, cela signifie qu'ils gagnent.
If we also sit down and we don't say anything, that means they are winning.
C'est pourquoi je me suis levée aujourd'hui en me disant, d'accord, je vais aider. Et en parlant à certaines personnes, j'ai compris que beaucoup de gens ont besoin d'aide. Certains ont besoin d'être informés sur le fait qu'ils sont bien inscrits sur les listes électorales. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui.
Avec une campagne dynamique et une équipe engagée, Ginette Lavaque espère convaincre les électeurs de lui accorder leur confiance.
La nouveauté, je veux dire, j'ai jamais été politicienne, mais j'ai été engagée dans ma communauté. Moi, ce qui m'est important, c'est la communauté, c'est les gens, c'est la collaboration, les connexions. J'ai fait à un moment donné un exercice d'essayer de trouver c'est quoi ma valeur la plus importante. Puis c'est pas évident de trouver une seule valeur qui vraiment est la plus importante. Puis chez moi, ce que j'ai découvert, c'est connexion. Puis pour moi, ça représente tellement de choses, ce mot-là. Ça englobe tellement de choses. Donc je pense que je veux être là pour représenter, bien représenter, puis être à l'écoute de la circonscription, à les représenter à Ottawa, de créer des connexions partout où je vais, mais surtout d'être à l'écoute pour pouvoir apporter les enjeux qui sont les priorités puis les choses les plus importantes de notre circonscription, puis travailler sur ces enjeux-là, travailler pour faire avancer des progrès, puis renforcer notre pays.
Le jour du scrutin dira si cette mobilisation portera ses fruits. Voilà. Gaël Pouilloux, Winnipeg, RGL.
Un nouveau parti politique fédéral est en train de tenter de se faire une place lors des prochaines élections fédérales avec à sa tête Dominique Cardy. Monsieur Cardy qui effectue un retour en politique comme chef du parti de l'Avenir canadien, son parti qui espère présenter une centaine de candidats dans les différentes circonscriptions fédérales canadiennes en vue du scrutin de la fin avril. Pour Dominique Cardy, figure bien connue de la politique néo-brunswickoise, il est temps de recentrer le débat politique autour des questions de la défense, de la démocratie et des services publics. Il faut, selon lui, protéger l'indépendance du pays face aux dérives populistes de nos voisins du Sud. Le Canada n'est pas préparé, dit-il, à un affrontement politique ou économique avec les États-Unis de Trump. Monsieur Cardy propose un vaste plan de réarmement qu'il a nommé le plan Beaverbrook, lequel s'inspire de l'effort de guerre de la Seconde Guerre mondiale. M. Cardy ne s'arrête pas aux questions de défense, il veut aussi moderniser les services publics et en santé proposer des chirurgies en soirée pour réduire les listes d'attente, mais il veut aussi revoir les politiques d'immigration et miser sur des technologies vertes dans tous les secteurs, y compris l'armée. Francophile assumé, il rappelle que les droits linguistiques doivent être respectés partout au pays, y compris dans les entreprises sous juridiction fédérale. Il faut dit-il, redéfinir l'identité canadienne autour de la démocratie et du respect des droits et libertés. Sébastien Caron, posté à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, l'a reçu dans ses studios.
Alors que la campagne fédérale démarre à peine, on donne la parole aux candidats dans le sud du Nouveau-Brunswick, et notamment à Dominique Cardy, ancien ministre provincial, aujourd'hui chef du Parti de l'Avenir canadien, qu'il dit situé centre dur. il fait son entrée sur la scène fédérale. Pourquoi ce nouveau saut en politique?
Possiblement une cas de masochisme non diagnosé, mais à part de ça, c'est vraiment... quand j'ai vu l'année passée notre politique fédérale divisée entre M. Trudeau, qui est en train de passer au gauche, mais pas dans une gauche utile, mais juste de dépenser l'argent et de parler beaucoup, de mon avis, ce n'est pas vraiment progressiste. L'autre côté, M. Poilievre, qui était en train d'adopter beaucoup des mesures, des politiques, des messages importés des Américains, en particulier l'équipe de M. Trump, s'est dit « OK, ce n'est pas acceptable ici. On a les grands problèmes de la réformation de notre gouvernement. Mais maintenant, tout ça est mis à une côté parce que maintenant, on a besoin de confronter une énorme défi, l'attaque des Américains contre notre indépendance. Alors pour moi, qu'est-ce que les choses qui me motive aujourd'hui, en particulier en vue du fait que M. Carney essaie de modérer un peu son parti, M. Poilievre, qui a pris dans ses propres problèmes, je n'ai pas jasé beaucoup sur ça, mais... La politique a besoin encore de retourner à un centre dur basé sur l'évidence pour adresser les problèmes. Et quand j'entends M. Carney, des mouvements positifs, oui, mais pas un plan pour notre défense nationale qui est vraiment crédible. Quand il parle de couper des impôts, quand il lance dans cette compétition avec M. Poilievre, ce n'est pas sérieux, ça. On entre dans un temps de guerre les prochaines années. Et mon parti est le seul parti qui est prêt pour dire la vérité sur ces dossiers. La guerre arrive, le Canada n'est pas préparé, nos chefs n'ont pas nous bien préparés pour qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois, les prochaines années. On a besoin d'un changement radical comme qu'est-ce qu'on voit en Europe, où les pays sont en train de réarmer, de préparer pour une guerre. Et nous ici, on n'a pas le bénéfice d'avoir les Européens à notre côté. On a les Russes au nord, les Américains au sud, et c'est temps de devenir sérieux. Alors mon parti qui était créé dans l'esprit de renouveler nos réformes démocratiques, de renforcer maintenant notre tâche et de pousser les grands partis de confronter cette réalité d'une guerre qui arrive et d'assurer que les Canadiens, nos citoyens, sont bien préparés et informés. Parce que je trouve qu'avec toutes ces niaiseries autour des trains de haute vitesse, des coupures des impôts, on évite de parler sur le dossier important. On a les Américains qui sont en train de dire qu'ils vont prendre notre indépendance. Je soutiens fortement les trains de haute vitesse, le transport public. Mais en avant de ça, on a besoin d'assurer qu'on a un Canada qui peut survivre les prochaines années.
Ce qui l'inquiète, c'est surtout l'avenir du Canada face aux extrémismes, notamment ceux qui proviennent des États-Unis. Pour lui, les Canadiens doivent prendre la menace au sérieux.
Si on ne veut pas être américain, on a besoin de prendre les paroles de M. Trump et son administration comme sérieux. Ils sont pris par l'idéologie de Duguinisme, un gars qui s'appelle Alexandre Dugin, qui est un philosophe russe qui parle de la judaïsme. Mais il veut diviser le monde en trois tiers. Les Américains qui peuvent contrôler les Amériques nord et sud, le Russe qui va contrôler la Russie, l'Europe et aussi l'Afrique, et la Chine qui peut voir le reste, l'Asie et l'Asie-Pacifique. C'est ça la base de leur politique. Et maintenant, on voit une réannexion avec le Canada et le Groenland, la même chose que M. Poutine a fait avec l'Ukraine une douzaine d'années passées. On entend les mêmes paroles qu'on a entendues au commencement de ce combat. Ah, on parle presque tous les mêmes langues. C'est difficile parce qu'il prend connaissance du fait français au Canada, mais pas exactement une grande surprise. M. Trump ne prend pas connaissance de beaucoup de choses. Mais il dit qu'on partage une langue, une histoire, c'est presque le même. C'est juste qu'on est divisé par cette ligne artificielle. Nous sommes les frères. C'est fou, ça. Et c'est fou si on tombe dans le même piège que les Ukrainiens ont tombé là-dedans. Parce que ça a commencé en Ukraine avec l'annexation. Un référendum qui était pas du tout valide, mais qu'ils ont utilisé ça comme justification. Qu'est-ce qu'on entend hier? Une gang de gens en Alberta qui dit la même chose. Oh, on a besoin d'avoir un référendum en 2025 pour commencer le processus de découvrir si on peut devenir le 51e État des États-Unis. C'est là où on va y aller si on ne retourne pas aux questions fondamentales qui est pour moi. Est-ce que on veut que le Canada reste comme un pays indépendant? Et si la réponse est oui, on a besoin de regarder le contexte actuel. Un grand pouvoir au nord, un grand pouvoir au sud. Si on veut protéger notre indépendance, Canada a besoin de devenir un grand pouvoir militaire et économique.
Dominique Cardy affirme que la défense nationale doit revenir au cœur des priorités, mais qu'en est-il des enjeux qui touchent directement le quotidien des citoyens, comme le climat ou la santé?
Sur les questions domestiques, changement climatique, on a besoin, avec ce processus de réarmement que mon parti propose, on a besoin d'assurer qu'on utilise les technologies vertes pour ce processus. On ne peut pas ajouter l'attaque contre la planète quand on essaie de repousser les attaques des autocrates. Sur la question de santé, ça c'est un endroit où les autocrates sont bien placés pour créer les divisions dans les démocraties, parce qu'on paye beaucoup pour notre système, mais comme on le savait ici en Nouveau-Brunswick, les autres provinces aussi, il y a un niveau de frustration parce que c'est difficile d'accéder à ce système. Alors, une idée concrète qu'on va partager dans la campagne, pourquoi pas, en contexte du système universel et public, n'offre pas l'opportunité pour les chirurgiens qui travaillent dans le système d'engager les infirmières, les autres gens qui travaillent aussi dans le système, et ils peuvent louer une centre dans les hôpitaux le soir et la fin de semaine, paye le gouvernement provincial pour le faire. Alors, le gouvernement provincial va gagner dessous. L'infrastructure va être utilisée. Le chirurgien, les autres, va avoir un petit bonus pour leur paye. Et ça va enlever quelqu'un de liste d'attente qui va aider tout le monde. Alors, système pleinement public, mais on veut réduire la liste, augmenter le salaire du chirurgien, augmenter le montant d'argent dans le système public. Et si les gens veulent payer pour ça, ils peuvent le faire, mais s'ils ne veulent pas, on continue exactement comme aujourd'hui.
Et sur la question linguistique, Saint-Jean et Fredericton, notamment, comptent une francophonie active, mais minoritaire.
Ah, je pense, premièrement, on a besoin de faire une division entre la communauté francophone hors du Québec et la communauté anglophone en Québec, en vue du fait que c'est les deux communautés culturelles fondateurs du pays, absolument avec l'addition de communautés autochtones. Mais on a besoin d'assurer qu'il y a une protection forte. J'étais assez étonné, j'étais dans un avion l'autre semaine, et il y avait un francophone unilingue qui était assis dans une voie d'urgence, et aucun membre de l'équipe était capable de parler en français. Ils ont demandé de bouger. Et j'ai levé, c'est pas acceptable, ça. Tu ne peux pas. Ça, c'est illégal dans le Canada. Tu as besoin d'offrir les services dans les deux langues officielles dans les entreprises qui sont gérées par le gouvernement fédéral. Alors, assurer que les lois sont bien suivies et s'il y a les violations, d'assurer qu'il y a les gens sont punis pour ça.
Selon lui, cette vision du pays passe aussi par une modernisation de la démocratie. Il propose même un nouveau cadre identitaire canadien.
Je pense qu'on a besoin de trouver une manière d'avoir une conversation autour de la multiculturalisme dans le Canada qui n'est pas basée sur l'idée des années 60 de M. Trudeau père. Quand c'était vraiment... On connaît qu'il y avait une grande culture anglo-saxon et francophone qui était dominante et on a encouragé les autres de prendre une petite place autour de ces cultures. Les dernières décennies, on a vraiment abandonné cette idée d'une culture dominante et avec ça, on a abandonné l'idée qu'on peut définir un peu c'est quoi d'être Canadien. Et comme j'ai mentionné quelques minutes passées, on a besoin de souligner que la démocratie est la seule forme de gouvernance valide dans le monde. Et pour les nouveaux arrivants, d'assurer que ça, c'est au moins une connaissance que tout le monde partage. Parce que sinon, il y a un vrai risque qu'on peut commencer de voir les divisions entre les différentes communautés et aussi qu'on va perdre aucune idée c'est quoi le Canada. Et l'idée de démocratie, le droit de chaque être humain, ce n'est pas quelque chose occidental, pas quelque chose qui est basé sur la couleur de ton peau. Ça, c'est quelque chose qui est au cœur d'être un être humain. C'est seulement qu'il y avait quelques pays qui ont découvert la manière de livrer un gouvernement comme ça avant quelques autres. On devrait avoir les grandes discussions autour de qu'est-ce qu'on peut faire pour moderniser notre démocratie. On peut utiliser les outils comme ceci, le Zoom, les réseaux sociaux, pour partager les idées et les plans de réforme avec tout le monde. Ce n'est pas besoin d'être réduit à un petit groupe de fonctionnaires ou politiciens. Mais en même temps, on a besoin de souligner qu'il y a des risques avec ça, avec les réseaux sociaux et l'impact sur le partage de la désinformation, etc., etc. Alors, on a besoin d'être conscient de ça, mais on peut les utiliser pour vraiment pousser la réforme dans une manière qu'on n'a pas vue dans l'histoire de notre pays, pour vraiment encore passer à une autre étape de la démocratie. un avantage d'un temps de crise, ça nous donne l'opportunité de réformer les choses. J'espère qu'on ne va pas perdre cette opportunité pour moderniser la manière qu'on gère notre gouvernement.
Dominique Cardy souhaite présenter une centaine de candidats à travers le pays avec son parti de l'avenir canadien. Il espère recentrer le débat politique et préparer le pays face aux défis à venir tant internes qu'internationaux. Ici Sébastien Caron pour Initiative Journalisme Local à Fredericton.
Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Eh bien, M. Cardy nous parlait entre autres sujets d'immigration, micro de Sébastien Caron, et c'est là-dessus qu'on poursuit. Mais là, on revient sur nos pas et on se rend à Québec, ville où nous attend Alice Zanetta. On se mobilise du côté de Québec contre la fermeture imminente du Bureau d'aide juridique en immigration de Québec. Le bureau qui n'a plus un sou dans ses coffres, faute de subventions. Ce bureau est le seul à desservir les migrants vulnérables dans l'Est de la province. Le Bureau d'aide juridique en immigration qui accompagne d'un point de vue juridique quelques 200 migrants et en majorité des demandeurs d'asile. Sa fermeture inquiète des organismes, des avocats et bien sûr ses bénéficiaires. Dans un contexte de régionalisation de l'immigration, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées donc à Québec le dimanche 30 mars devant l'Assemblée nationale de Québec pour interpeller le gouvernement de François Legault et lui demander de débloquer les fonds. Les détails avec Alice Zanetta à Québec.
Les gens de Québec, aujourd'hui, on montre qu'on est solidaires envers les migrants, les migrantes à statut précaire, ceux qui, entre autres, ont fui la violence dans leur pays d'origine pour trouver refuge ici. Ça suffit, les compressions sur le dos de l'immigration!
Avec un mois de préavis, la fermeture du Bureau d'aide juridique en immigration de Québec, qui s'adresse aux migrants les plus vulnérables, en a surpris plusieurs, à commencer par la directrice du Carrefour d'action interculturelle, Laurie Arsenault-Paré, dont l'organisme soutient les personnes migrantes.
On était surpris, d'autant plus que on référait des gens quotidiennement là, à ce bureau-là. On savait que le bureau était en surcharge depuis sa mise sur pied, donc pour moi, c'est une évidence que c'était un service qui était essentiel sur notre territoire. Les besoins sont en constante augmentation sur notre territoire. Au moment où il y a eu l'annonce de fermeture du bureau, il y avait plus de 45 dossiers qui étaient en attente d'être rencontrés. Il y avait plus de 6 semaines d'attente pour avoir même un rendez-vous d'admissibilité au Bureau d'aide juridique en immigration. Donc, c'est vraiment pas parce que les besoins sont absents sur le territoire.
La Commission des services juridiques qui chapeaute le Bureau de Québec dit avoir constaté une diminution des demandes d'accompagnement en immigration au cours de la dernière année. Le Bureau de Québec est le seul qui dessert tout l'est de la province, puisque l'autre centre se situe à Montréal. Celui de Québec a été mis sur pied en juillet 2023 et en moins de 2 ans, il a ouvert 480 dossiers, dont la majorité concerne des demandes d'asile. À une semaine de sa fermeture, ce sont donc plus de 200 personnes immigrantes vulnérables qui perdront leur représentant légal.
On a su qu'il y aurait très peu de dossiers en cours qui allaient être référés à des avocats du Bureau d'aide juridique de Montréal. On entend énormément d'inquiétudes, beaucoup de détresse aussi. Les personnes ont peur d'être abandonnées dans leur processus.
Laurie Arsenault-Paré avertit que, faute de suivi par des avocats, le nombre d'avis d'expulsion de migrants pourrait augmenter. Au Bureau de Québec, ce sont 2 avocats et 2 agents de soutien qui sont employés, des postes qui pourraient donc être coupés avec la fermeture du bureau.
C'est des montants qui sont minimes là, par rapport à un budget étatique.
Pour Audrey Simard, qui est coordonnatrice à la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, l'abolition du Bureau d'aide juridique de Québec va mettre sous pression ces organismes de soutien.
Le manque d'accès prolonge les délais, prolonge la durée des dossiers, ce qui maintient des personnes aussi dans la précarité et donc des personnes qui se réfèrent vers les organismes communautaires et même les banques alimentaires. Tout le réseau communautaire, pas seulement d'immigration, est affecté là, par la précarisation des personnes.
Le syndicat des avocats de l'aide juridique, comme plus de 550 avocats et organismes, se sont récemment opposés publiquement à la fermeture du Bureau d'aide juridique pour migrants de Québec. Dans une lettre publiée dans le quotidien Le Devoir, ils interpellent le ministre québécois de la Justice, Simon Jolin Barrette, pour lui demander d'annuler sa fermeture. Alice Zanetta pour IJL à Québec.
Bonjour, ici Vincent Lavoie à Miramichi, au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue.
On célébrait le week-end dernier la 40e édition du Festival des sucres de Vanier. Des centaines de personnes ont bravé les mauvaises conditions climatiques pour se faire une place à la cabane à sucre Vanier à Ottawa, la seule du genre en milieu urbain au pays, nous dit-on. Ce festival organisé par le Muséoparc Vanier est l'événement phare de la saison des sucres à Ottawa. Notre journaliste Gabriel Poulin n'a pas raté cette occasion de se délecter des produits de l'érable et d'en discuter avec Annick Normand, gestionnaire des communications du Muséoparc, et Yannick Labossière, expert en sirop d'érable. Gabriel Poulin.
Allez! Mes seigneurs, gentlemen et gentilshommes, l'invitation vous est lancée de venir célébrer au Festival des sucres de Vanier!
C'est ainsi que le crieur public officiel, Daniel Richer, dit La Flèche, a lancé la 40e édition du Festival des sucres samedi matin à la cabane à sucre Vanier, la seule cabane à sucre urbaine au Canada. Organisé par le Muséoparc Vanier, l'événement a rassemblé des centaines de visiteurs qui ont bravé la pluie verglaçante ce week-end pour célébrer le patrimoine sucré de la région. Au programme pour cette édition anniversaire, tir d'érable, repas du temps des sucres, spectacle de musique, jeux pour enfants, chiens de traîneau, artefacts autochtones et même une compétition de bûcherons. Annick Normand, gestionnaire des communications du Muséoparc Vanier.
Avec la coalition de l'industrie de la musique d'Ottawa, on a fait un beau partenariat encore pour une troisième année consécutive et puis ils nous ont fait une belle brochette d'artistes avec Mimi Obomsawin et Katou, une artiste de chant de gorge inuit. On a Jesse Simmons, on a Vincent Bishop, on a O'Connelly, en tout cas, tout plein de gens comme ça.
Elle nous parle également de la grande nouveauté cette année qui a été dévoilée lors de l'embouteillage des premières bouteilles de sirop d'érable.
On a 4 nouveaux étiquettes cette année qu'on a fait une autre collaboration avec le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est et le programme Passion Art. On a Max, qui est artiste visuel, qui est allé dans les écoles pour parler des produits PBO puis de travailler différents matériaux avec eux. Donc, le 4 designs que les élèves ont fait. Et puis, vous allez pouvoir admirer ça. Donc, vous pouvez en acheter 1, 2, 3, 4 si vous voulez avoir la collection.
Après plusieurs années mouvementées, marquées entre autres par un incendie criminel en 2020, une pandémie mondiale, une reconstruction et une réouverture officielle en 2023, la cabane à sucre Vanier en est à sa 2e saison complète cette année. Une occasion parfaite de faire valoir les nouvelles installations à la cabane, selon Yannick Labossière, conservateur du Muséoparc et expert en sirop d'érable.
La modification majeure qu'on a apportée à la cabane, c'est qu'on a placer l'évaporateur dans une pièce adjacente. Donc, la pièce est vitrée, donc les gens peuvent voir, mais les gens n'ont pas nécessairement accès. Dans l'ancienne cabane, l'évaporateur était dans la salle à manger. Donc, il y a quand même un certain danger. Là, ça vient assez chaud. Hein, c'est une grosse bouilloire. Puis, des enfants qui courent alentour, ça n'est pas une bonne idée. Fait que là, on l'a bougé, puis on l'a mis dans une pièce à part. Mais comme je vous dis, c'est une pièce qui est toute vitrée. Donc, quand on bouille, puis les gens viennent manger à la cabane à sucre, c'est assez féerique. Là, ils peuvent nous voir travailler. Ouais.
Et pour ceux qui n'ont pas pu assister au festival, il reste encore du temps pour se sucrer le bec. La saison des sucres se poursuit dans la région jusqu'à la mi-avril. Gabriel Poulin, IGL, Ottawa.
Eh bien, c'est avec quelques caries de plus que l'on conclut cette émission de Point de vue. Merci à nos journalistes Gabriel Poulin, Gaël Empoyo, Sébastien Caron et Alice Zanetta. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire et l'Initiative de journalisme local. Rédactrice nationale Julia Chénu, merci. Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci d'être là. Merci à votre station de nous ouvrir cette fenêtre. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!
Radio@fréquenceinfo.ca